Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le lundi 11 mars 2019. Pour m'épauler durant ces deux heures qui nous attendent, deux femmes qui, on peut le dire, ont franchi un nouveau cap dans leur complicité.
Deux femmes qui se tiennent la main.
Deux femmes dont la reprise a cappella du tube de Diane Tell, Si j'étais un homme, vendredi, a constitué indéniablement un temps fort de la journée mondiale de la femme. Un moment de grâce, auraient dit certaines. La question qui se pose ce matin est évidemment, ont-elles prévu un nouveau duo pour la journée mondiale de la plomberie aujourd'hui? Attention, c'est pas parce que c'est la journée de la plomberie qu'il faut chanter des chansons de chiottes.
Donne-moi ton corps, baby, ton cœur.
Non, justement. Bref, quelle joie d'accueillir visiblement en pleine forme Eva Rock et Céline D'Acosta. Bonjour mesdames.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et on embrasse Camaro.
On embrasse évidemment Camaro. Donc on attend toujours le prochain. Quoi ?
On aurait pu chanter les tuyaux. Où sont passés les tuyaux ?
L'incendie de Rio, vous voulez dire.
Les tuyaux.
Où est passée la grande échelle ?
C'est de votre faute.
J'aime bien vous laisser seul dans ces moments-là. Et juste regarder, me contenter de savourer le moment. Céline, quel temps pour ce 11 mars ?
Pas terrible ce matin, ça ira mieux cet après-midi avec le retour du soleil par l'ouest. Vous voyez, je garde que le bon.
Que le bon, mais vous avez bien raison. À vos côtés, Céline, celle qui la semaine dernière a remercié Dieu que vous soyez de retour. Oui, Eva Rock était soulagée de vous retrouver, vous, une amie qui la connaît bien, qui sait notamment qu'Eva vit depuis 18 ans maintenant, pas 18 ans d'ailleurs, un célibat non désiré et qu'il vaut mieux éviter d'aborder le sujet. Votre remplaçante pendant les vacances, Anissa Dadi, elle, connaissait moins bien Eva.
Ce matin, j'ai trouvé dans la presse les petits noms qu'on se donne quand on est en couple. Vous savez, le petit nom que vous donnez à votre moitié.
Non, je sais pas, mais allez-y.
Alors, oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Oh la boulette. Eva, qui n'est d'ailleurs pas du tout aigrie hein, quand elle croise des couples qui s'appellent par des petits noms, ce n'est pas le genre de truc qui l'agace.
Mon amour ? Mon cœur ?
Ah oui, non, c'est vraiment
Eva.
Ça.
Oh, oui, ça vous ne supportez pas ça.
Oh, le 11 mars 1978, Mathieu, décédé Claude François. Alors, on vous a demandé depuis ce matin quel souvenir vous gardez de lui. Est-ce qu'il y a une chanson qui a marqué aussi votre histoire personnelle ? Vous nous racontez tout ça sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Est-ce qu'on va accueillir Michel Drucker dans la matinale ?
C'est possible.
Parce qu'à chaque fois qu'on parle du décès de Claude François, comme il était là juste après, il devait se rendre à une émission de Michel Drucker.
Il devait se rendre à une émission de Michel Drucker, exactement.
Volontiers. Ouais. Merci, mesdames, vous écoutez. Les filles, un dernier mot avant de démarrer.
Femme.
Parfait, debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le lundi 11 mars, merci d'avoir choisi Europe 1. Excellent réveil à tous, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce lundi 11 mars est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Le grand débat, dernière ligne droite et comment sortir de la crise par le haut. Les membres du gouvernement se penchent sur la question à partir d'aujourd'hui. Boeing dans la tourmente après hier le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines. La Chine vient d'interdire à ses compagnies de faire voler le modèle 737 MAX 8. Un modèle pointé du doigt. On apprend par ailleurs que 9 Français figurent parmi les 157 victimes. Les sports et nous reviendrons sur la nouvelle défaite des Bleus du rugby dans le tournoi Destination. À Marseille, en revanche, le foot flambe à nouveau, victoire 1-0 contre Nice en Ligue 1. Mario Balotelli a encore marqué.
Europe 1.
L'exécutif entre donc dans l'ultime phase du grand débat, la dernière semaine de la consultation lancée en décembre, née de la contestation des Gilets jaunes dès hier. La République En Marche a mis sur la table ses propositions. Le parti présidentiel revendique 4 groupes de travail, 3500 contributions. Les conclusions insistent sur la nécessité de lutter contre le sentiment d'injustice. Emmanuel Macron devrait préciser sa vision de la sortie de crise en avril. Ça se prépare dès aujourd'hui. Conseil des ministres, les membres du gouvernement vont apporter leur contribution. Jean-Rémy Baudou.
Leurs contributions, les ministres les ont travaillées depuis des semaines avec leurs services. Ils se sont inspirés des courriers qu'ils ont reçus ou des échanges dans les grands débats auxquels ils ont pu assister. Ce matin, chacun apportera donc son expertise et veut peser sur la sortie de crise et la suite du quinquennat. Sébastien Lecornu veut proposer une réforme de la décentralisation avec plus de pouvoir aux départements et aux communes. Mounir Majoubi travaille sur des jurys citoyens pour co-construire les lois. Agnès Buzyn planche sur la manière de plus redistribuer aux travailleurs à faible revenu. Certains feront aussi des propositions plus politiques directement au président. Mais au sein du gouvernement, c'est malgré tout la prudence qui domine à quelques semaines des conclusions du chef de l'État à l'issue du grand débat. Un ministre confiait récemment lucide : « Si on n'est pas à la hauteur, la France explose et on est viré ».
Les informations de Jean-Rémy Baudot pour Europe 1.
Il est 5h02.
Dramatique accident hier soir au siège de la police judiciaire à Paris. Un adjoint de sécurité a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir tiré avec son arme de service sur l'une de ses collègues mortellement touchée. Tir accidentel. Le suspect manipulait son arme de service. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire et a saisi l'IGPN, la police des polices. 11 000 foyers étaient encore hier soir privés d'électricité dans le Nord après le passage de vents violents qui ont provoqué d'importants dégâts en matériel. Les rafales ont soufflé jusqu'à 126 km/h par endroit.
On sait maintenant, Jérôme, que 9 Français se trouvaient à bord de l'avion du Boeing d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé hier matin.
Nouveau chiffre, selon le Quai d'Orsay ce matin, 157 victimes. Aucun passager ni membre de l'équipage n'a survécu. Le Boeing 737 MAX 8 qui décollait d'Addis Abeba vers Nairobi au Kenya s'est écrasé 6 minutes après le décollage. Une catastrophe qui rappelle l'accident d'un autre appareil du même modèle qui s'était abîmé en mer au large de l'Indonésie en octobre dernier. Voilà qui pose beaucoup de questions soulevées par Xavier Tittelmann, expert en aéronautique.
Clairement, on a quelque chose qui est étonnant. Un avion moderne, récent, entretenu, qui a ce type d'accident à quelques mois d'intervalle, vraiment tout le monde pointe du doigt Boeing, et notamment le nouveau système qui s'appelle le CMAS, qui est en fait un système qui permet de compenser une descente. Cette technologie était censée être totalement transparente pour les pilotes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de formation supplémentaire pour les pilotes. C'était même un argument de vente. Vous pouvez passer de l'ancien Boeing 737 au nouveau sans même avoir besoin de faire un simulateur de vol ou une évolution particulière. Mais c'était excessivement simple. Et là, il se trouve qu'il y a un système nouveau qui peut-être ne fonctionne pas correctement et les pilotes n'ont pas été informés de ce système ni de la manière de l'arrêter. On sait que sur les vols précédents du Lion Air qui s'est crashé donc l'année dernière, les pilotes avaient su gérer cette situation et le quatrième vol sur lequel cette panne était survenue, les pilotes n'avaient pas su le gérer. C'est-à-dire qu'en fonction aussi de la formation du pilote, ils vont être capables ou pas de répondre à cette problématique qui, encore une fois, normalement se gère relativement facilement.
Des propos recueillis par Mathieu Bock pour Europe 1 et on apprend cette nuit que la Chine interdit à ses compagnies de faire désormais voler ses Boeing 737 MAX 8. Bernard Tapie a-t-il escroqué l'État français? Ouverture cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris du procès pour des soupçons de fraude autour de l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais en 2008. Il avait empoché 404 millions d'euros. En 2017, Bernard Tapie avait été condamné au civil à rembourser à partir d'aujourd'hui au pénal. C'est sur le mécanisme d'une fraude présumée qu'il va devoir s'expliquer.
La protestation des Algériens sur place comme en France ne faiblit pas.
Contre une cinquième candidature présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika le 18 avril prochain, le chef de l'État, 82 ans, est très affaibli, a regagné l'Algérie hier. Confirmation de la présidence algérienne. Il était hospitalisé à Genève ces deux dernières semaines. Hier, des milliers de lycéens et étudiants ont défilé. Une partie du pays a répondu à l'appel à la grève générale. En France, ils étaient aussi des milliers dans plusieurs villes, à Paris, Bordeaux ou encore Marseille. Plus de 3 jours désormais que le Venezuela est paralysé par une gigantesque panne d'électricité dans un contexte politique très tendu et instable. Le président élu Nicolas Maduro est contesté par une partie du pays qui soutient Juan Guaido, opposant autoproclamé président par intérim. Le gouvernement a décrété pour aujourd'hui une nouvelle journée chômée dans les écoles et les administrations. Le gouvernement qui par ailleurs nie la mort de 15 personnes dans les hôpitaux en raison de la panne d'électricité, mort annoncée par des ONG et par l'opposition. Juan Guaido réclame l'instauration de l'état d'urgence afin que l'aide humanitaire puisse entrer dans le pays.
Oui Jérôme, et passons sans chichi maintenant au journal des sports. Avec, je crois, des bonnes nouvelles, mais avant les bonnes nouvelles, les mauvaises. À la une,
exactement.
Une gueule de bois.
Oui, celle des Bleus du rugby ce matin. Réveil encore une fois difficile à Dublin au lendemain d'une défaite en Irlande dans l'avant-dernier match du tournoi Destination. 26-14, la troisième défaite en 4 matchs dans cette compétition. Un score presque flatteur pour les Français qui ont un temps été menés 26-0. Dominé, battu dans tous les secteurs de jeu, première mi-temps cataclysmique. Un chiffre le montre. En première période, les Français ont joué seulement 5 secondes dans la moitié de terrain adverse. Je rappelle qu'une mi-temps en rugby, ça dure 40 minutes. Les Bleus n'ont pas enchaîné un deuxième succès 2 semaines après l'Écosse. Le sélectionneur Jacques Brunel ne parle toutefois pas de coup d'arrêt. L'Irlande, dit-il, possède un atout majeur qui manque aux Français, la confiance.
On savait très bien que l'Irlande, avec la maîtrise qu'elle a, avec la confiance qu'elle a, elle a fait tellement de choses l'an dernier avec un groupe qui se connaît bien et qui a ses habitudes. On savait très bien que ça allait être compliqué. On espérait pouvoir rivaliser mieux. On n'a pas su le faire, notamment en début de match.
Des propos recueillis par Simon Rubin. Les Français vont rester en Irlande cette semaine pour préparer le dernier rendez-vous du tournoi. Ils se rendront directement à Rome où ils affrontent l'Italie samedi 13h30.
Le foot, Jérôme, et encore un super Mario à l'OL.
Mario Balotelli, bah oui, encore lui, unique buteur hier soir au Stade Vélodrome. Il a apporté la victoire 1-0 à Marseille face à Nice, son ancien club, en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Arrivé en janvier, l'Italien a inscrit 5 buts en 7 matchs avec l'OM, 4 en 4 rencontres au Vélodrome. Et voilà une 5e victoire en 6 matchs qui voit les Provençaux toujours 4e, mais ils se rapprochent du podium. Les Lyonnais sont 3e à seulement 3 points désormais. Les Lillois sont 2e, 7 points devant les Lyonnais après hier un succès 1-0 à Saint-Etienne. La fin du règne de Martin Fourcade sur le biathlon mondial. Il ne remportera pas la Coupe du Monde pour la 8e année d'affilée. Confirmation hier lors des Mondiaux en Suède, c'est le Norvégien Johannes Bø. Il ne peut plus être rejoint en tête du classement général. Des Mondiaux au cours desquels Fourcade n'a décroché aucune médaille en 2 épreuves individuelles, au contraire de Quentin Fillon-Maillet, 26 ans, en bronze sur le sprint samedi et sur la poursuite hier.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
Deuxième succès de la saison pour le pilote français Citroën Sébastien Ogier. Le sextuple champion du monde en titre a remporté hier soir le rallye du Mexique. C'est la 3e épreuve de l'année. Il est 2e au classement général.
Merci beaucoup. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Gégé, on en est où dans cette affaire dite de la main aux fesses à Céline Dacosta? Vous n'êtes pas suspendu?
Les mains, c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. Toujours.
Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Et puis, l'arbitre.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
C'est Mathieu.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis c'est une question qu'on s'est tous posée au moins une fois après quelques gin tonic. Et si on changeait de vie? Cette question, certains se la sont posée à jeun et ça leur a plutôt pas mal réussi. Chaque jour, on vous fait découvrir un homme ou une femme qui un jour a franchi le pas. Ce matin, Aurélien, il travaillait dans la communication digitale, il est devenu hypnothérapeute. Et ça marche très fort.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Oui, Céline, c'est l'heure de faire un point sur la météo avec un ciel pot-pourri aujourd'hui. On a absolument tout, de la pluie, du soleil, j'ai même vu de la grêle.
Enfin, oui, du tout grésil, est possible. Du c'est grésil. Vrai. Ouais, ça quasiment partout. Seul un quart nord-ouest s'en sort ce matin avec déjà de larges éclaircies. Et les côtes méditerranéennes, comme souvent, avec un grand soleil et du vent. Ça ira mieux cet après-midi avec le retour d'éclaircies par l'ouest. Ça restera en revanche perturbé entre le nord-est et les Alpes avec encore quelques coups de tonnerre et là encore du grésil. Les températures sont en baisse, une moyenne de 10 à 15 degrés pour cet après-midi. On se rapproche des normales de saison. Il en fera uniquement 7 à 9 dans le nord-est, un petit peu plus près de la Méditerranée puisqu'on atteindra les 19 degrés à Bastia.
Merci beaucoup Céline et Varoc.
Et oui, on est lundi. Mais surtout, c'était le 11 mars 1978, décédé Claude François. Quel souvenir vous regardez de lui? Est-ce qu'il y a une chanson qui a marqué votre histoire personnelle? Eh bien, Philippe nous raconte qu'il était en 6e le jour de la mort du chanteur et que beaucoup de filles de sa classe étaient en larmes. Les pauvres,
bah, étaient en 6e. Vous saviez où j'étais, moi, le jour de sa mort?
Vous étiez épané.
Exactement. Ouais. Je voulais voir si vous suiviez.
Vous avez vu? Je vous connais par cœur. Et Takoué nous dit enchanté. Non, je vous la raconte après ça, là, parce que je vais vous mettre une petite chanson. Pardon.
Suspense.
Vous continuez. Oui, vous
Il y
continuez.
Aura une chanson associée.
Oui, exactement.
Ça sera certainement comme d'habitude.
Sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de douce allégresse et aussi de belles rencontres, comme chaque matin à 5h10 dans Fallait oser, puisqu'on donne la parole à des gens qui ont osé changer de vie. Aujourd'hui, rencontre avec Aurélien Guéneuf, il a 35 ans, il habite Paris. Après 11 ans dans la communication digitale, il décide de se reconvertir vers un métier plus axé sur l'humain, l'hypnothérapie.
Fallait oser.
Je me suis retrouvé face à ce questionnement de me dire est-ce que je ne serais pas meilleur ailleurs ? Et j'ai pris conscience notamment que ce qui était important pour moi, c'était notamment la créativité et le relationnel dans mon travail. Et donc, je me suis rendu compte en creusant que j'étais plus attiré par des problématiques humaines que marketing. Aujourd'hui, je dis que je passe de la communication grand public à la communication interpersonnelle, puisque l'hypnothérapie, c'est une forme de thérapie brève, mais qui se fait du coup à deux, quoi.
Aurélien est en train de terminer sa formation. Il n'a toutefois pas totalement quitté son environnement de base car il s'est spécialisé dans les addictions au numérique.
Et oui, son expérience dans la com digitale devrait lui servir. Il souhaite aider en fait ses patients à modérer leur usage des réseaux sociaux et des smartphones. Et il a hâte de s'installer et se sent à sa place.
Je me sens hyper soulagé. Déjà soulagé parce que j'avais beaucoup de peur avant de me lancer, forcément. Et puis je me suis rendu compte que justement en me lançant et en me renseignant, en testant des choses, en interrogeant des gens, en fait toutes les peurs elles finissaient par s'estomper, et surtout je me sens libre parce que j'ai vraiment pris conscience que la voix que j'avais prise c'était une voix qui me correspondait beaucoup mieux, et j'ai vraiment en fait cette impression d'être dans un rôle qui va vraiment me convenir à 100%.
Aurélien ouvrira son cabinet en avril, il exercera également en entreprise et compte aussi lancer un podcast sur les addictions numériques.
Et puis si vous aussi vous avez changé de métier, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on a envie de connaître votre expérience, eh bien vous nous envoyez un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures à la lisière de l'info et du music hall en compagnie de mes prodigieuses complices, jamais en panne d'idées comme vendredi, quand pour la journée de la femme, Eva a décidé de féminiser tous les noms communs, pour le meilleur et pour le pire. L'idée lui est venue en examinant les paquets de croquettes de sa chienne Colette.
Eh bien, après un an de travail, elle a hâte de pouvoir les transmettre aux propriétaires de chiens et de chats.
De chiennes et de chattes.
Message journée de la femme.
Oui, Eva, merci. À suivre, tous nos bons tuyaux culture pour bien démarrer la semaine. Et puis la rubrique santé du docteur Ichou. Marcel, qui vendredi nous a parlé d'un livre dont le titre nous avait laissé, comment dire Céline, pantois.
Mm-hmm. Prenez soin de votre microbiote vaginal. Oui, oui, oui.
Ce matin, un thème moins obscur. Une étude américaine conteste l'intérêt des applications ludiques sur nos capacités cognitives. Mince alors. Mais d'abord, parce qu'on l'adore et parce que ça fait longtemps, voici Oman, Jane sur Europe.
Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Boeing dans la tourmente après hier le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines. La Chine vient d'interdire à ses compagnies de faire voler le modèle 737 MAX 8. Un modèle pointé du doigt. On apprend par ailleurs que 9 Français figurent sur la liste des 157 victimes. Dramatique accident hier soir au siège de la police judiciaire à Paris. Un policier a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir tiré avec son arme de service sur l'une de ses collègues, mortellement touché. Tir accidentel. Le suspect, un adjoint de sécurité, manipulait son arme de service. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire et saisit l'IGPN, la police des polices. Enfin, Bernard Tapie a-t-il escroqué l'État français ? Ouverture cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris du procès pour des soupçons de fraude autour de l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais en 2008. Il avait empoché 404 millions d'euros.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 11 mars 2019. Et si d'aventure vous avez prévu de miser votre prime d'activité du mois sur les canassons qui se lanceront tout à l'heure à Compiègne, voici les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Compiègne et mon pari gagnant sera le 103 Kéline, jument saisonnière, toujours extra à cette époque de l'année. Elle vient d'afficher un net regain de forme, comme le prouve sa dernière fin de course dans un quintet similaire sur l'hippodrome de Marseille-Borély. À nouveau proche de son meilleur niveau, elle va enfin pouvoir évoluer dans un terrain profond et sur lequel elle vaut quelques longueurs de mieux. Dès lors, tous les feux sont au vert. Notez bien, pour cet après-midi à Compiègne, réunion 1 dans la première course, le numéro 3, Kéline.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et nous entrons dans une phase particulière de cette émission, certainement la préférée des puristes, car ils le savent, c'est lorsque toute l'équipe se réunit autour de la table du petit déjeuner qu'on évoque souvent les gros dossiers. Oui, est-ce l'odeur rassurante des croissants chauds ou ce poppers que Jérôme Lacroix verse dans les cornflakes à la place du sucre, trop mal noté sur Yuka ? Toujours est-il que c'est là, chaque lundi matin entre chien et loup, que les langues se délient et qu'on ose évoquer les vraies questions, par exemple, que vaut le nouvel amant des Baroques ?
Ah, il va vraiment, il a une bonne forme, hein ?
Ah, forcément, un Colombien de 23 ans, c'est tonique. Ça ne compte pas ses heures, comme on dit dans le petit milieu du libertinage. Mais voilà, Eva est exigeante. Et si d'un point de vue fonctionnel, Don Chibro, son nouvel étalon colombien, ne prête pas le flanc à la critique, il semble manquer quelque chose, un truc indéfinissable, un petit supplément d'âme, peut-être.
En fait, il manque un truc, je vais le dire à la fin.
Pauvre Don Chibro, lui qui pensait que sa carte de séjour allait tomber comme ça. Eh non, il faudra faire mieux, amigo. Allez, on passe au pressing.
Don Chibro, vous l'avez appelé ?
Oui, c'est appelé comme ça, oui. Je sais pas, je visualisais quelque chose dans ce genre-là. Je pouvais pas donner son vrai prénom. Ouais. Notre célèbre revue de presse en mode zapping, il y a ce matin pas mal de titres dans vos quotidiens. Du pratique avec le Parisien qui titre « Nouvelle prime à la casse, comment en profiter ?» De la justice avec Libération qui a choisi d'évoquer le procès Tapie. « On refait le match », écrit le quotidien. De la politique avec le Figaro pour qui la sortie du grand débat est un casse-tête pour la majorité. Enfin du sport avec un seul mot en une de Sud-Ouest à propos du match de rugby d'hier, hein, Irlande-France, pathétique. Et vous, mes astucieux loustiques, qu'avez-vous repéré dans la presse ? Commence par vous, Eva.
Eh bien, Jérôme Lacroix l'évoquait dans son journal de 5 heures. La situation au Venezuela est très critique. Libération y consacre une page entière ce matin, en affirmant que hier, les Vénézuéliens ont vécu leur troisième jour sans électricité après une panne massive qui a atteint 80% de la population. Alors, Jérôme le racontait, au moins 15 malades rénaux sont morts faute de dialyse, même si le gouvernement conteste ces faits. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'une grave pénurie alimentaire touche le pays, eh bien, les familles ont observé impuissante la nourriture stockée au congélateur devenir impropre à la consommation, magasins fermés, écoles fermées, transports paralysés, pas de téléphone ni connexion internet évidemment. Et même dans la capitale, Caracas, qui est habituellement épargnée par les coupures d'électricité, eh bien les métros ne fonctionnent plus et des centaines de passagers au vol annulé attendent à l'aéroport international. Le commerce lui aussi est au point mort, raconte le journaliste François-Xavier Gomez. Alors non seulement parce qu'il est impossible de conserver les produits frais, mais on ne peut plus également avoir recours aux terminaux de paiement qui sont devenus pourtant indispensables depuis quelque temps à cause de l'hyperinflation empêchant de payer ses achats en liquide à moins d'avoir avec soi des valises de billets. Reste une question, quelle est l'origine de cette panne d'électricité ? Alors du côté du gouvernement, on évoque une attaque cybernétique. Des preuves seront fournies à l'ONU pour démontrer la responsabilité de Washington dans cette panne, affirment les hommes du président Maduro. Son opposant Juan Guaido affirme qu'il s'agit plutôt d'un manque d'investissement dans l'entretien des infrastructures. Et de nombreux experts semblent lui donner raison. Jeudi, c'était la compagnie publique d'électricité qui, elle, avait dénoncé de son côté et sans précision un sabotage. On n'en saura pas plus. Acte délibéré ou pas, les Vénézuéliens, eux, espèrent un retour du courant pour reprendre un semblant de vie normale. On suivra évidemment ce dossier.
Excusez-moi, on me signale à l'instant, et ça c'est je crois une info Europe 1, que l'électricité est revenue au Venezuela et même les communications téléphoniques sont possibles. C'est le premier appel qui est passé.
D'accord.
Le combo. Parce que si vous réfléchissez, c'est aujourd'hui en fait l'anniversaire. On marque l'anniversaire du décès de Claude François.
Non, donc mais tout est relié. J'espérais que vous n'alliez pas me le faire, mais évidemment, j'ai.
Il fallait bien diffuser notre chanson culte aujourd'hui.
Au moment où j'ai choisi cet article de Libération sur l'électricité, je me suis dit, je vais me prendre l'autre en train de chanter espagnol.
C'est vrai.
Ça n'a pas loupé.
C'était le combo du jour. Oui, c'est magnifique. Pardon, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de passer à droite. C'est vrai. Ouais. Ce soir, non, on est le matin, Céline. Céline, oui, dites-moi ce que vous avez trouvé dans la presse ce matin. Je suis tout ouïe.
J'espère bien trouver dans la croix qui nous parle d'un phénomène en pleine expansion.
Tombé dans la croix, comme j'étais pas si loin.
C'est vrai, c'est pas faux. Le running, plus particulièrement le running solidaire. Figurez-vous, qui est-ce qui court ici?
Oui, alors ça, c'est l'application géniale.
Courez-vous, Eva.
Je vous laisse parler.
Ah, mais c'est vrai qu'Eva court, on le sait maintenant.
Eva court, oui, et assez vite. Aussi vite que Marie-José Perrec.
Parce que c'est tendance de courir, hein. On compte près de 9 millions de coureurs occasionnels ou réguliers en France et ça continue à augmenter. Ça a encore plus de le faire pour une bonne cause. Les associations organisent de plus en plus de courses en se tournant vers des partenariats avec les entreprises pour récolter des fonds comme le 24 février dernier. Je vais y arriver. Ou à Tours, vous pouviez courir au profit de l'association Soleil d'Éthiopie qui œuvre à la scolarisation d'enfants des rues. À Montpellier, le même jour, vous pouviez courir pour soutenir les personnes en situation de handicap. À Saint-Jean-du-Pin, dans le Gard, on courait pour lutter contre le cancer. Et hier même à Paris, lors du semi-marathon, vous pouviez courir semi-engagé. Vous faites gagner des sous à l'association avec l'achat de votre dossard, mais aussi et surtout grâce à votre performance, tant d'euros au kilomètre parcouru. Et c'est cette formule qui est la plus rentable car elle repose sur des coureurs motivés. Et pour pérenniser ce genre de course, les associations comme Action contre la faim se tournent vers les entreprises qui proposent ensuite à leurs salariés de participer à des défis multisports, par exemple pendant 1h30, avec toutes les 6 minutes 15 euros pour l'association, pris en charge par l'entreprise, ce qui leur a permis en 2018 quand même de récolter 1,4 million d'euros. L'intérêt des associations rencontre alors les objectifs des entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale. Donc tout le monde s'y retrouve, forcément. Alors si vous souhaitez vous engager à titre personnel ou avec votre entreprise, vous avez le choix. Et pourquoi pas la course la plus longue ? Pourquoi pas ? Oula. C'est la No Finish Line. Ça a lieu au mois de mai. Non, c'est 5 jours seulement.
5 jours de course ?
5 jours de course.
Non,
une course non-stop où vous pouvez parcourir un circuit de 1300 mètres autant de fois que vous le souhaitez. Chaque kilomètre, c'est 1 euro donné à des projets en faveur des enfants défavorisés ou malades. De quoi trouver quand même de la motivation. C'est à lire dans La Croix aujourd'hui. Alors, la course, c'est du 15 au 19 mai à Paris.
Oui, on pourrait le faire, mais en relais.
On pourrait le faire en relais. Alors moi, je courrais par exemple 5 minutes. Ouais. Et vous feriez 4 heures, par exemple. Et vu que vous êtes une grande championne d'athlétisme, il faut quand même le rappeler.
Moi, je prends 5 minutes aussi. Hein.
Très bien. Et je vois Marcel Ichoux, qui est le docteur Ichoux, qui arrive en régie. Il fera aussi la dernière. Il fera le finish. C'est-à-dire les 8 dernières heures, ce sera lui.
Cet engagement, c'est beau.
On passe à vous, Jérôme Lacroix.
Oui,
un article du Parisien aujourd'hui en France qui évoque ce mal invisible mais auquel nous sommes tous exposés tous les jours, plusieurs fois par jour.
La pollution.
Même nos enfants, ils sont exposés. Non, c'est un autre encore. Je vous parle de la lumière bleue. Vous savez ce que
c'est que ça?
Ah ben c'est voilà. Des écrans.
C'est cette lumière qui émane des écrans et principalement des écrans de nos téléphones, tablettes et autres ordinateurs. Alors qu'est-ce que c'est que cette lumière? En fait, elle est très présente dans les écrans de dernière génération. Il y en a de plus en plus, télé, téléphone. La lumière est plus forte que dans les écrans, j'allais dire déjà les anciens écrans, à cristaux liquides, vous savez. Alors cette lumière, elle traverse en fait la cornée et le cristallin.
Il manquait plus que ça.
Et ben voilà, et elle peut atteindre la rétine. Alors comment savoir si votre rétine est en danger?
Faites entrer le docteur Ichou, j'ai peur.
Alors, je vous le dis, écoutez, ça vous concerne. Alors, comment savoir si votre rétine est en danger? Si vous ressentez une gêne, des picotements, ou si vous larmoyez quand vous regardez un peu trop longtemps votre portable ou quand vous travaillez trop longtemps sur l'ordinateur, ça peut aller jusqu'à une perturbation de la vision. Si vous ressentez cela, ben oui, inquiétez-vous, parce qu'à long terme, la lumière bleue peut entraîner l'apparition de taches noires. Ben, attendez, je vais vous le dire. Ah, oui. Ça peut entraîner l'apparition de taches noires et une perte de vision. Peut-être irréversible, des dangers particulièrement importants pour les yeux des plus jeunes, bien sûr. Le cristallin est plus sensible, l'œil globalement. Alors, il y a près de 10 ans, l'Agence de sécurité sanitaire alertait déjà dans un rapport. Elle parlait de stress toxique pour la rétine, avec un facteur qui favorise une fatigue oculaire, des troubles du sommeil. Il ne faut pas regarder son téléphone juste avant de s'endormir, mais aussi l'apparition de la cataracte et de la dégénérescence maculaire. Ça, c'est la dégradation de la rétine. Alors, comment se prémunir? Plein de solutions. D'abord, tout bêtement, limiter le temps d'exposition aux écrans. Voilà, première chose. Faire en sorte d'éloigner le plus possible ses yeux ou les yeux des enfants des écrans. Faire des pauses. Si vous jouez aux jeux vidéo, par exemple, pendant une heure et demie, faites des pauses tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Ayez toujours, ça, conseil pratique, une petite lumière, même de faible intensité, quand vous utilisez un écran, idéalement placé, placé derrière, idéalement, l'écran. En tout cas, jamais d'utilisation d'écran dans le noir total. Et puis, il y a aussi sur les téléphones un filtre anti-lumière bleue. Allez fouiller dans vos réglages. Oui, ça y est, sur tous les téléphones maintenant. Ça porte des noms différents.
Allez, mes petites enquêtrices, là. Eva et Céline.
Sur
certains téléphones, ça s'appelle confort des yeux. Sur certains téléphones. Voilà. Et puis,
Night Shift.
Moi, c'est filtre de lumière bleue activé. Voilà. Ouais, voilà.
D'accord, le Night Shift.
Alors, regarde.
Il faut aller voir dans les réglages.
Regardez, Mathieu, sans le filtre. Avec le filtre.
Ah oui, c'est bien, c'est beaucoup mieux, c'est un peu plus jaune plus doux, avec le filtre, c'est plus doux.
Il faut le temps de s'habituer à l'éclairage différent. Voilà. Puis il existe aussi des lunettes qui filtrent la lumière bleue, mais à l'efficacité contestée, renseignez-vous.
D'accord. Merci beaucoup Jérôme, enfin merci, je ne sais pas si je dois vous dire merci pour ces informations
non, il en stresse.
Qui me font stresser. Merci à tous les amis, le pressing referme ses portes. Céline, peut-être un petit conseil à Eva et son amant colombien. Selon vous, que doivent-ils faire pour raviver la flamme?
Le truc burk.
Ah oui, c'est une idée, effectivement, on fera plus tard.
Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zeleny. Délicieux réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, faisons un point sur la météo de ce 11 mars. Un temps avec bien plaisir. Instable aujourd'hui.
Un ciel partagé entre nuages, pluie, grésil, voire quelques coups de tonnerre ce matin entre la Normandie, les Hauts-de-France, les Ardennes, la région parisienne, la Bourgogne, l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes. De la neige même sur les reliefs de l'Est, le tout accompagné de bonnes rafales de vent. 70 km/h en rafale, jusqu'à 100 km/h sur les cimes vosgiennes, 120 sur les Alpes. Pour l'ouest du pays, ce sera plus calme avec déjà de larges éclaircies dans la matinée entre la Bretagne et la région centre. Du soleil près de la Méditerranée là aussi, mais pour tout le monde, du vent jusqu'à 90 km/h sur les côtes méditerranéennes et les Pyrénées. Pyrénées où le ciel, lui, va rester couvert et pluvieux. Les températures ce matin sont bien fraîches, 3 à 10 degrés, avec un ressenti plus froid à cause du vent.
Et du mieux pour cet après-midi.
Oui, le retour des éclaircies par l'ouest. Le ciel restera encore mitigé sur le nord-est, puis en descendant vers les Alpes. Le vent, lui, va continuer de souffler sur la moitié nord et tout le flanc est, jusqu'en Corse, avec des rafales à 110 km/h sur les caps. Côté thermomètre, alors ça baisse, surtout dans le nord-est, 7 à 9 degrés. Ailleurs, on va se rapprocher des normales puisqu'on aura 10 à 15 degrés et il fera encore très doux près de la Méditerranée. On aura jusqu'à 19 degrés du côté de Bastia.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui n'élude de rien de l'info mais qui sourit la vie, qui chante la vie, qui n'est qu'amour, comme Céline Dacosta qui parfois se laisse emporter par sa joie de vivre alors qu'elle est censée enchaîner.
C'est sa vie. Un bouteillage. Il est comme ça.
Pardon. Il est 7h58.
accessoirement, il faut donner l'heure à suivre, tout savoir et notamment comment se prémunir contre la nouvelle faille de sécurité du navigateur Google Chrome, une comédie musicale réjouissante et une web-série intitulée Les Losers, qui n'est pas un biopic de nous. C'est ce qui vous attend dans Lundi les bons tuyaux, qui sera précédé comme d'habitude de votre point santé. Comme d'habitude, le docteur Ichou nous expliquera qu'on n'avait rien compris. On savait déjà que les compléments de vitamines ne servaient à rien. Mais voilà qu'une étude américaine conteste l'intérêt des applications ludiques sur nos capacités cognitives. Même FIFA 2019 ? J'espère que quand même pas. Je lui demanderai, mais d'abord, elle est de retour. Elle nous a manqué. Au-delà, je dirais qu'elle a manqué au journalisme. Hélène Zelani vient d'arriver.
Dans un jet privé sur l'aéroport de Punta Cana.
Le journal dans un instant.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Toute l'info de ce 11 mars 2019. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Bernard Tapie de retour devant un tribunal, procès pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait permis de toucher plus de 400 millions d'euros. Toujours pas d'explication officielle après l'accident d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines. 157 personnes sont mortes, dont 9 Français. Et puis le président Bouteflika de retour en Algérie après 2 semaines passées à Genève. Des milliers de lycéens sont encore descendus dans la rue hier.
Europe 1.
Le procès de Bernard Tapie s'ouvre donc cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'homme d'affaires est jugé pour des soupçons de fraude autour de la fameuse procédure d'arbitrage qui lui avait permis d'empocher plus de 400 millions d'euros en 2008, somme qui devait clore son litige face au Crédit Lyonnais dans la vente d'Adidas. Déjà condamné à rembourser, Bernard Tapie va maintenant devoir s'expliquer sur le mécanisme de la fraude. Chloé Triomphe.
Ce qui est reproché à Bernard Tapie, c'est d'abord d'avoir convaincu l'Élysée et Bercy de mettre un terme à un bras de fer judiciaire de 20 ans en choisissant de purger son litige avec le Crédit Lyonnais par un arbitrage, une procédure qui fait appel à 3 juges-arbitres supposés indépendants. Sauf que l'un d'entre eux connaissait l'avocat de l'homme d'affaires et ne l'a pas mentionné, d'où les soupçons de fraude et d'arrangement entre amis. Une vision des choses que contestent Bernard Tapie et son avocat Maurice Lantourne.
En qualité d'avocat, j'ai travaillé dans ce dossier pour faire gagner un client avec des moyens légaux et par conséquent il est assez injuste, devoir reprocher à un avocat d'avoir gagné son procès. L'arbitrage a donné raison à Bernard Tapie parce que sur le fond, il a raison, il a été spolié par la banque.
Aux côtés de Bernard Tapie et de son avocat de toujours, Maurice Lantourne, on trouvera sur le banc des prévenus le juge-arbitre Pierre Estoupe, ancien haut magistrat, aujourd'hui âgé de 92 ans, mais aussi l'actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard, à l'époque bras droit de Christine Lagarde à Bercy, l'ancienne ministre qui a déjà dû s'expliquer devant la Cour de justice de la République, a été reconnue coupable de négligence pour avoir validé cet arbitrage. Elle a été dispensée de peine.
Chloé Triomphe et Bernard Tapie, affaibli par un cancer de l'estomac, promet de rendre coup pour coup face aux accusations d'escroquerie qu'il conteste. Une fonctionnaire de police tuée hier par un collègue dans les locaux de la police judiciaire à Paris. L'homme qui a tiré avec son arme de service a été placé en garde à vue. Selon une source syndicale, ce serait un accident. L'IGPN, la police des polices, est saisie.
157 morts, dont 9 Français, c'est le lourd bilan de l'accident d'un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines.
Oui, accident quelques minutes après le décollage du vol entre Addis Abeba et Nairobi au Kenya. Au moins 20 personnes étaient membres d'agences de l'ONU. Aucune précision pour l'instant sur les 9 victimes françaises. Une journée de deuil national est décrétée aujourd'hui en Éthiopie. On ne connaît pas encore les causes du drame. Le pilote avait signalé des problèmes et demandé à faire demi-tour. Selon un témoin, l'avion était déjà en feu lorsqu'il s'est écrasé. Fin octobre, le même appareil, un Boeing 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer quelques minutes après son décollage. Et ce matin, la Chine interdit à toutes les compagnies du pays de faire voler ce type d'appareil. Alors, il est 5h33.
Nouveau week-end de manifestation en Algérie.
Oui, lycéens et étudiants sont descendus dans la rue pour dire non au 5e mandat du président Bouteflika. Le chef de l'État qui était justement de retour après plus de 2 semaines en Suisse, officiellement pour des examens de routine. Mais pour les Algériens qui manifestent depuis le 22 février, ce retour ne change rien. Reportage de Nour Chahine à Alger.
Après un long séjour médical à Genève, le retour de Bouteflika en Algérie est perçu comme un non-événement. De toutes les façons, le président sortant ne décide plus rien pour Nasser, un architecte de 42 ans.
Le président est malade, et tout le monde le sait, c'est pas lui qui décide. Alors qu'il vient ou qu'il ne vienne pas, c'est pareil. On va continuer les manifestations jusqu'au bout.
Ça ne change absolument rien, estime ML, maire au foyer.
Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, qu'il soit mort ou vivant, c'est très bien qu'il va rien changer. Là, autant quand on voit son état de santé, ça se voit qu'il va rien faire. Il aurait même pu ne pas entrer, ça n'aurait vraiment rien changé.
Le président Bouteflika est revenu à Alger durant une journée particulièrement tendue. En plus des lycéens qui ont investi les rues de la capitale, une grève générale a paralysé les commerces et les transports.
Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 à Alger et à Paris, quelques 10 000 personnes ont également manifesté au cri de pouvoir assassin. La prison de Condé-sur-Sarthe bloquée pour la 6e journée consécutive. Les personnels dénoncent toujours l'agression de 2 surveillants mardi la semaine dernière par un détenu radicalisé. Les forces de l'ordre pourraient intervenir dans la matinée pour débloquer l'établissement. Une réunion se tient à Paris aujourd'hui entre représentants syndicaux et administration pénitentiaire. Et puis 11 000 foyers encore privés d'électricité dans les Hauts-de-France, conséquence des vents violents qui ont soufflé sur la région. Il y a des dégâts matériels mais pas de blessés graves. Le trafic a également été perturbé à l'aéroport de Beauvais où plusieurs vols ont été retardés ou annulés.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zelani. L'occasion de saluer peut-être ce jeune journaliste qui vous a suppléé la semaine dernière, Théo Manval, qui assurait également le journal de 7 heures chez Pierre de Villeneuve. Théo, en apparence, un garçon très sérieux, très construit. Mais dès qu'on laisse un peu traîner les micros...
avait prévenu, c'est ce que martèle Clémentine Autain, députée LFI.
Chaque fois qu'on dit LFI, j'ai l'impression qu'il disait LFI.
Ouais, c'est une autre limonade, hein. C'était au Mandal, drôle de coco. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour, bonjour.
Si vous êtes là, c'est par définition que le journal des sports n'est pas loin. Et à la une... le serial buteur.
Mario Balotelli, c'est lui, n'en finit plus d'enchanter les fans de foot marseillais avec l'OM. Il a inscrit hier son 5e but en 7 rencontres. L'attaquant recrue de l'hiver, arrivé de Nice où rien ne fonctionnait. Bah hier, c'est justement contre Nice, son ancien club, qu'il a marqué l'unique but de la rencontre. 1-0, clôture de la 28e journée de Ligue 1. Rudy Garcia, l'entraîneur, salue la bonne performance de Balotelli et aussi son bon esprit.
Un buteur de ce calibre-là, ça change effectivement sur le fait qu'il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour les convertir. Après, j'ai plutôt envie de féliciter Mario aujourd'hui, pas pour son but, parce qu'on sait qu'il est capable d'en mettre, mais plus pour son attitude. Il a été assez exceptionnel. Il y a eu un peu de provocation physique. Il a été intelligent, il s'est bien tenu. Voilà.
Il s'est bien tenu, j'aime bien la formulation. Et de 5 succès en 6 matchs pour Marseille, les voilà revenus à seulement 3 points de leur objectif de fin de saison. Le podium, 3e place occupée pour l'heure par les Lyonnais. Également hier, la victoire 1-0 des Lillois à Saint-Etienne. Les Nordistes, 2e, 7 points devant les Lyonnais. On retiendra aussi hier le succès 3-1 des Rennais contre Caen.
Il nous faut aussi parler rugby, s'il vous plaît. Et une semaine pour ne pas tout perdre.
Oui, dernier rendez-vous des 6 nations samedi en Italie pour les Bleus face à une nation battue 4 fois en 4 rencontres. Les Bleus espèrent surnager après hier une nouvelle défaite en Irlande, 26-14, score presque flatteur, tant les tricolores ont été dominés, surtout en première mi-temps. Il y avait 19-0 à la pause. Des Français qui ont sauvé l'honneur, 2 essais tardifs. Le capitaine Guillaume Guirado déplore des Bleus avant tout, dit-il, trop inconstants.
Le talent, je pense qu'on le démontre par bout de match. J'aimerais un match abouti, un match complet. Cet après-midi, je pense qu'on ne peut pas forcément parler de talent. Je pense que sur les attitudes et sur le combat en lui-même, ils nous ont mis une leçon.
Des propos recueillis par Simon Rubin, les Français qui vont rester en Irlande pour préparer donc l'Italie samedi à Rome, 13h30. Du cyclisme et Paris-Nice, première grande course à étapes de la saison, c'est parti hier et première étape remportée au sprint à Saint-Germain-en-Laye par le Néerlandais Groenewegen. Le vent a provoqué plusieurs chutes. Aujourd'hui, deuxième étape des Brévières dans les Yvelines à Bellegarde dans le Loiret.
On termine, Jérôme, avec une personnalité du jour toujours aussi fringante.
Roger Federer, 38 ans, tout juste auréolé de son 100e titre en carrière. Il a gagné cette nuit pour son entrée en lice au relevé tournoi de tennis donc d'Indian Wells aux États-Unis. 2 manches face à un Allemand 85e mondial. A noté l'élimination de Luca Pouille dès son entrée en lice et l'abandon côté dame de Serena Williams, victime de vertige sur le court.
Ah, merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. De vous à moi, GG. Comment vous vous êtes trouvé ce matin?
Awesome, génial.
Gardez cette semaine.
Et il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, une émission qui ne se résume pas à la folie de Jérôme Lacroix. Car Jérôme, il faut aussi compter sur l'exubérance de mes deux consoeurs, Céline Dacosta et Eva Rock.
Et elles non plus ne marchent pas au soda.
Comme vous dites Jérôme,
c'est
à suivre le point santé de celui qui leur répète qu'il faut lever le pied sur la pina colada. Le docteur Ichou arrive avec une nouvelle mauvaise nouvelle ce matin. Une étude américaine conteste l'intérêt des applications ludiques sur nos capacités cognitives.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Et ne riez pas trop, Céline, car c'est l'heure d'un point météo et la météo est extrêmement complexe aujourd'hui. Encore de la pluie et du vent, mais pas que.
Oui, et ça sur les trois quarts du pays. Pardon.
mais surtout entre la Normandie et le nord des Alpes, je vais y arriver. De bonnes rafales de vent jusqu'à 110 km/h en rafale sur les cimes vosgiennes. Du vent, on en a aussi près de la Méditerranée, mais avec du soleil. Soleil qui va revenir, et ça c'est la bonne nouvelle, hein, sur presque tout le pays cet après-midi. Seul un gros quart nord-est restera sous ce ciel perturbé avec des températures en baisse, hein, puisque la moyenne ira de 7 à 9 degrés. Pour les autres, on aura 10 à 15 degrés. On est proche des normales de saison, mais ça baisse quand même jusqu'à 19 encore près de la Méditerranée.
Merci Céline. Eva Rock.
Le 11 mars 1978, décédé Claude François. Depuis ce matin, 5h, on vous demande quel souvenir vous gardez de lui. Est-ce qu'il y a une chanson qui a marqué votre histoire personnelle? Jérémy nous dit par exemple que lors de sa première déception amoureuse, il avait découvert le mal-aimé qu'il écoutait en boucle. C'était pas forcément une bonne idée.
Mal-aimé, je suis le mal-aimé.
Et Taco, elle écoutait, elle chantait cette chanson quand elle était petite.
Il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait.
Un jouet extraordinaire. Il y avait des mots rigolos à lire dans le texte. Et finalement, aujourd'hui...
Vous avez vu un jouet extraordinaire, Eva?
J'en cherche un.
Ça brosse à ton
Et Taco nous dit qu'aujourd'hui, ce qu'elle préfère dans Claude François, c'est Bernard Frédéric dans le podium. Ah ouais. Bien évidemment, on valide c'est cette magnifique réponse. Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous me faites dire des horreurs.
Vous l'avez dit toute seule. Hein. Ouais. C'est l'heure de notre page santé avec le docteur Marcel Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
À l'occasion de la semaine du cerveau qui débute aujourd'hui, vous nous parlez d'une étude américaine qui conteste l'intérêt des applications, souvent ludiques, sur l'amélioration de nos capacités cognitives. La gym cérébrale sur tablette ou smartphone, ça ne sert à rien Marcel.
J'ai pas dit que ça servait à rien, j'ai dit que ça ne rendait pas plus intelligent comme ce que nous promettent les initiateurs de ces jeux. Bon, tout d'abord, il faudrait comprendre ce qu'est vraiment le cerveau. On le compare souvent à un muscle qui nécessiterait un entraînement comme une sorte de gymnastique cérébrale.
C'est faux.
Eh bien, ça n'est pas un muscle, je vais encore détruire un mythe. Le fonctionnement du cerveau est dû à des neurones qui sont connectés entre eux et qu'un courant électrique parcourt. Et à la jonction des deux, ce qu'on appelle la synapse, il y a des médiateurs chimiques qui font passer le courant électrique. Plus vous mettez des connexions entre divers neurones et plus vous appréhendez de choses, vous apprenez des choses, pour autant, ça ne vous rend pas plus intelligent. C'est pas parce que vous faites des gammes de piano toute la journée que vous allez passer des passages plus difficiles, mais on peut rester complètement imbécile tout en jouant parfaitement bien du piano. Donc, ce qui permet l'apprentissage et la mémoire, c'est justement de créer ces réseaux en multipliant les connexions.
Et alors, pour autant, le fait de faire travailler ou d'entraîner comme ça son cerveau avec des applis ne peut pas être nuisible?
C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Évidemment, les concepteurs de ces jeux vidéo, payants, je vous le rappelle, développent une stratégie marketing sophistiquée pour convaincre les utilisateurs que l'utilisation de ces applications rend plus intelligent. Mais par ailleurs, des chercheurs en psychologie et neurosciences nous démontrent le contraire. En réalité, si vous répétez une tâche cognitive par utilisation d'un jeu vidéo, vous serez évidemment beaucoup plus performant sur ce jeu. Oui. Pour autant, pour le transporter à une intelligence plus globale, c'est plus difficile. Rendre plus apte à comprendre, à assimiler, à raisonner, bref, devenir intelligent est lié au fait de faire des tâches multiples, d'avoir de la curiosité et surtout de chercher du sens. Et ça, on l'obtient grâce à l'apprentissage, à la lecture d'œuvres littéraires, de cinéma, enfin bref, et surtout d'interlocution, disons, avec l'autre. Ce qui fait l'intelligence, c'est l'autre, c'est la différence. C'est quand vous confrontez vos idées à celui de l'autre, en journalisme c'est comme ça, mais c'est comme ça en science, c'est l'interdisciplinarité qui vous rend plus intelligent. Alors que, pour paraphraser Brassens, le temps passé sur les applis ne fait rien à l'affaire quand on est...
Quand on est con, on est con. Bien joué Marcel. Merci Marcel Ichoux et nous reparlerons des performances de notre cerveau tout à l'heure à 6h20 puisque nous recevrons Maxime Elbaz, docteur en neurosciences à l'Hôtel Dieu à Paris.
Europe 1. Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous entraîne au cœur de l'info sans jamais oublier vos zygomatiques, notamment grâce aux touches de fantaisie délicatement saupoudrées, ça et là, par Céline Dacosta. Mmh. Alors certes, parfois ça n'a vraiment aucun sens, mais n'est-ce pas là au fond l'essence même de la fantaisie?
Les crapauds doivent parcourir 2 km et surtout traverser la départementale, lieu de tous les dangers. On pourrait aller jusqu'à la disparition de l'espèce, nous dit Christophe D'Adamo. Rien à voir avec le chanteur.
Sur tes hanches.
À suivre, je me souviens même plus quand c'était ce truc-là. À suivre, devenez le roi de la machine à café, celui vers qui tous les collègues de l'Open Space se tournent pour connaître le dernier bon plan culturel. Ne ratez pas lundi les bons tuyaux. Notre expert théâtre vous dira notamment quelle comédie musicale il faut absolument monter voir à Paris en ce moment. En attendant, je suis sûr que vous n'avez rien contre un petit interlude musical, surtout si c'est pour écouter M et sa super chérie.
Il est 5h49, l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Boeing dans la tourmente après hier le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines. La Chine vient d'interdire à ses compagnies de faire voler le modèle 737 MAX 8, un modèle pointé du doigt. On apprend par ailleurs que 9 Français figurent parmi les 157 victimes. La protestation des Algériens sur place comme en France ne faiblit pas. Contre une cinquième candidature présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika le 18 avril prochain, le chef de l'État, 82 ans et très affaibli, a regagné l'Algérie hier. Il était hospitalisé à Genève ces deux dernières semaines. Hier, des milliers de lycéens et étudiants ont défilé. Une partie du pays a répondu à l'appel à la grève générale. En France, ils étaient aussi des milliers dans plusieurs villes, à Paris ou encore Bordeaux. Enfin, plus de 3 jours désormais que le Venezuela est paralysé par une gigantesque panne d'électricité. Le gouvernement a décrété pour aujourd'hui une nouvelle journée chômée dans les écoles et les administrations. Juan Guaido, l'opposant au président élu Nicolas Maduro, réclame l'instauration de l'état d'urgence afin que l'aide humanitaire puisse entrer dans le pays.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 11 mars. Et si je vous dis que cet après-midi à Compiègne, 15 trotteurs, tous plus musculeux les uns que les autres, sont prêts à tout donner, vous me dites.
Ah ouais.
Non, c'est l'heure des pronostics hippiques de José Coves. Bonjour José.
Bonjour, eh bien oui, nous sommes à Compiègne, en forêt de Compiègne, sur l'hippodrome où c'est ouvert, et 16 juments, ce sont des pur-sang et pas des trotteurs, sont au départ de cette première course difficile à déchiffrer. 5 d'entre elles ont tout pour plaire. Le numéro 8, Talarmier, elle a retrouvé cette saison la bonne carburation et ce quintet arrive à point nommé. Le 11, Dame Did, a gagné sur ce tracé des 2000 mètres, elle a le droit de s'en souvenir. Le 14, Datsum, va trouver un terrain pénible, Calafrici. Puis le 7, All Back the River, en prenant de l'âge, elle a élevé son niveau, elle est dans une bonne spirale. Et le numéro 1, l'indomptable, c'est une force de la nature. On peut aussi retenir le 10, Will Troy, si l'on le juge sur ce qu'elle a fait de mieux. Le 7, Plant Love, toujours présente à l'arrivée, et le 3, Killing, en net regain de forme. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h47. D'abord le 8, le 11, le 14, le 6 et l'As, et l'on ajoute le 10, le 7 et le 3.
José, on sent poindre chez vous une certaine admiration pour l'indomptable, cette force de la nature.
C'est vrai, j'aime cette jument qui met toujours son cœur sur la piste. Dans son handicap, elle porte 61 kilos sur le dos, c'est beaucoup, mais c'est une championne dans la catégorie poids lourd. Mathieu, je sais que l'indomptable, le numéro 1, va tout faire pour finir dans les 5 premiers, et je la remercie.
Moi, c'est moi qui vous remercie, José. Si jamais l'indomptable devait porter moi, ça serait combien par rapport à 61 kilos? Ça serait 88 kilos. Alors 61 kilos, c'est léger. Avec ça, elle va y arriver facilement.
Il est 5h51.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien et pour le théâtre, les spectacles, celui qui est un spectacle à lui tout seul. Tout aussi diplômé du CFJ que de la Broadway School of Entertainment, Thierry Geffretin sait tout faire. Chanter,
I'm singing in the rain.
Imiter Valéry Giscard d'Estaing, ou plutôt Nicolas Canteloup imitant Thierry Leluron, imitant Valéry Giscard d'Estaing. Thierry Geffretin ce matin nous parle d'un spectacle. Il a assisté aux répétitions d'une comédie musicale qui sera à l'affiche du théâtre Marigny à partir de mercredi. Et vous nous le dites Thierry, allez-y. Courez-y même.
Après Peau d'âne, voici la deuxième grande production de Marigny, Guys and Dolls.
Yes, sir! When you see a guy with stars in the sky, you can bet that he's doing...
La musique donne envie en effet, mais je dois vous l'avouer, Thierry, Guys and Dolls, je ne connais pas. Hein.
Pas étonnant que vous ne connaissiez pas, Mathieu. Cette comédie musicale n'a jamais été donnée en France. Et pourtant, Guys and Dolls a fait les très beaux jours de Broadway au début des années 50. Le show a été donné 1200 fois à New York et en parallèle, le même spectacle a été programmé à Londres. C'est du pur Broadway, festif et bien ficelé.
Un petit mot de l'histoire.
Alors l'histoire, elle commence par un pari. Un patron de tripot met au défi un joueur, un petit truand, de séduire une jeune femme bien sous tout rapport, membre d'une association caritative qui pourrait être l'armée du salut. On va découvrir que les mauvais guys ont du cœur et que les dolls ne sont pas aussi effarouchés que cela. Et ce que vous découvrirez au Théâtre Marigny, c'est une fort belle production avec sur scène un cast anglais et dans la fosse des musiciens français, l'entente plus que cordiale donc, pour un spectacle à voir absolument.
Guys and Dolls, la prochaine comédie musicale à l'affiche du Théâtre Marigny à Paris, 121 représentations à partir de mercredi prochain. Merci Thierry. À vos côtés, on retrouve le jeune Clément Le Saffre. Ce matin, Clément, vous nous alertez sur une faille de sécurité qui rend nos ordinateurs vulnérables.
Oui Mathieu, peut-être que comme 6 internautes français sur 10, vous utilisez Google Chrome pour surfer sur Internet.
Oui, cela m'arrive en effet.
Eh bien, sachez que Google alerte depuis quelques jours sur une vulnérabilité de son navigateur. Ses ingénieurs ont repéré un bug que les spécialistes classent dans la catégorie Zero Day. Alors, derrière ce nom un peu geek, il y a en fait une faille de sécurité suffisamment grave pour déclencher une alerte rouge chez Google.
Zero Day, ça sonne un peu fin du monde.
Ouais, c'est vrai.
On n'en est pas encore là, mais il faut s'inquiéter quand même concrètement, puisque cette brèche permet à n'importe quel hacker mal intentionné d'avoir accès à des données d'utilisateurs de Google Chrome ou carrément de contrôler à distance un ordinateur contaminé par le bug.
Ouh là là. Alors, pour éviter de prendre des risques, il faut donc mettre à jour Google Chrome.
Il faut effectivement le mettre à jour et c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller dans le menu de votre navigateur qui est en fait tout en haut à droite sur l'icône avec les trois petits points à côté de la barre de recherche. Okay. En bas du menu qui va s'afficher, vous cliquez sur Aide, vous allez dans À propos de Google Chrome et alors là vous atterrissez sur une page qui vous indique si oui ou non votre navigateur est à jour. Alors normalement, c'est déjà le cas. Par défaut, Chrome se met à jour automatiquement, mais c'est une option qu'on peut activer ou désactiver selon son bon vouloir. Alors si elle n'est pas activée, Chrome va vous proposer une mise à niveau. Il suffit simplement de cliquer sur « Mettre à jour » pour l'installer et voilà, vous êtes à l'abri.
Mais Clément, moi qui joue les candides mais qui suis en fait un peu geek, je crois savoir que ce n'est pas la seule faille repérée par Google.
Eh bien, vous avez bien vu, hein, Mathieu. Sûr. En effet, en plus du bug sur Chrome, Google a fouillé un peu sur les internets et a détecté ce qu'il appelle une faille critique, cette fois sur Windows 7, l'ancienne version du système d'exploitation de Microsoft, mais qui est toujours un peu utilisée aujourd'hui. Alors Google a donné peu de détails sur cette brèche-là, si ce n'est qu'elle aussi a déjà été exploitée par des hackers. Alors alerté, Microsoft travaille actuellement sur un correctif, mais Google va plus loin et recommande carrément aux utilisateurs de Windows 7 de passer sous Windows 10, c'est la dernière version équipée, elle, de parade contre cette faille de sécurité.
Mais sinon, on n'a qu'à changer de navigateur pour un moment, le temps qu'il résolve
on
la panne.
On peut faire ça aussi, il y en a d'autres.
Voilà la brèche.
Moi, j'ai trop peur qu'ils viennent me hacker mon ordinateur.
Bon, n'ayez pas peur.
Parce qu'en
chose.
Plus, je pourrais plus regarder Netflix.
Et donc, une série qui s'intitule
Loser. Mais ça n'a rien à voir avec nous. C'est une série qui est consacrée aux losers dans le sport, des sportifs qui, à un moment donné de leur vie, ont cru tout perdre ou ont vécu des échecs qui les ont finalement fait grandir. C'est 8 films de 26 minutes à voir sur Netflix. Et il y a notamment l'étonnante histoire d'un club de foot anglais, Torquay United. En fait, ce club se bat pour ne pas descendre en division inférieure, ce qui signifierait un enterrement. Tout se joue sur le dernier match. Il faut au moins faire match nul. Torquay est mené 2-1. Il ne reste que quelques minutes. Et écoutez bien, dans les tribunes, les supporters s'énervent un peu, effectivement. Un policier chargé de la sécurité vient se poster entre les supporters et le terrain et il tient en laisse un berger allemand. Et la suite, elle est racontée par l'attaquant et le policier.
Du coin de l'œil, j'ai aperçu un joueur qui courait vers la touche. Et puis j'ai vu arriver la balle, suivie de près par Jim McNichol.
Le chien m'a vu arriver en courant vers le policier.
Le chien s'est jeté sur Jim et lui a mordu la cuisse.
Et malgré la blessure importante, le joueur se relève. Cet arrêt de jeu offre 4 minutes de temps additionnel. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont renversé la vapeur.
Eh bien oui, but et match nul. Exultation de la foule et cette impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. C'est bel et bien le chien qui a sauvé Torquay. Quant au joueur Jim McNichol, il a beau avoir mené une carrière plutôt correcte, il n'empêche, c'est toujours le joueur qui s'est fait mordre par le chien. C'est un épisode drôle et inattendu dans une série où chaque épisode se déguste comme une pépite, notamment un épisode avec Surya Bonali que je vous recommande. Ça s'appelle Loser et c'est à voir sur Netflix.
Merci beaucoup Evaroc pour ce conseil. Merci à toute l'équipe des bons tuyaux qui se reformera demain.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Encore de la pluie et du vent
oui,
aujourd'hui.
Oui, des averses surtout présentes ce matin entre la Normandie, l'Île-de-France, le Grand Est et puis en descendant vers les Alpes. Averses accompagnées de vent. Le soleil brillera déjà sur le nord-ouest et près de la Méditerranée. Il gagnera tout l'ouest cet après-midi. D'ailleurs, seul le nord-est restera sous un ciel perturbé avec là aussi de bonnes rafales de vent. Les températures sont en baisse, 3 à 10 degrés ce matin. Cet après-midi, on se rapproche des normales de saison, mais il fera frais notamment dans le nord-est avec 8 degrés à Metz. Il en fera 10 à Dijon, 12 à Brest, 14 à Biarritz, jusqu'à 19 encore à Bastia.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.